Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Avant de commencer cette émission, Franck Ferrand voulait dire un petit mot. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Je tenais en effet à saluer la mémoire de Marc Blondel qui était venu nous rejoindre au cœur de l'histoire. C'était le 1er mai dernier. Sa connaissance de l'histoire du mouvement ouvrier était proprement extraordinaire.
Et tout autre chose, mercredi prochain, on sera le 19 mars, France 3 nous proposera un nouveau numéro de Votre ombre d'un doute.
Et oui, et cette édition de mercredi me tient à cœur puisque nous avons tourné, figurez-vous, pendant un mois dans mon cher château de Versailles. C'est une maison que je connais mieux que n'importe quelle autre et je vous proposerai de la redécouvrir autrement. C'est donc mercredi soir sur France 3.
Alors vivement mercredi. Par ailleurs, le 6 juin prochain, on célébrera le 70e anniversaire du débarquement de Normandie. Vous nous préparez déjà pour l'occasion une émission spéciale. En attendant, vous avez choisi cet après-midi d'évoquer les préparatifs secrets du grand événement.
Ce débarquement, en effet, a été précédé d'une énorme opération d'intoxication de la part des services secrets alliés afin de tromper l'Allemagne sur la date et sur le lieu des opérations. Eh bien, c'est cette guerre du renseignement, baptisée du nom de code Fortitude, que j'aimerais évoquer aujourd'hui en compagnie d'un grand connaisseur de l'époque, Olivier Wiewiórka.
Et puisque nous sommes aujourd'hui le jour de la Saint-Patrick, vous répondrez tout à l'heure à la question de Johanna sur les origines de la fête nationale irlandaise.
J'imaginais que vous seriez tout en vert aujourd'hui. Non. Ben non, même pas. Alors d'ores et déjà, bonne fête à tous les Irlandais. Pour le moment et sans quitter le pub, je vous propose de nous lancer 7 décennies en arrière sur les traces d'un personnage étonnant dont le pseudonyme était Garbo.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Fortitude, en anglais, ça veut dire courage avec une connotation de cran, de tenue, de persévérance. Bref, une connotation anglaise. On peut dire qu'il en aura fallu aux alliés de cette fortitude pour mettre sur pied ce qui allait devenir le plus grand leurre de toute l'histoire. Il s'agissait de faire croire aux Allemands que le véritable débarquement aurait lieu ailleurs qu'en Normandie, qu'il se déroulerait beaucoup plus au nord et sensiblement plus tard, jusqu'à faire passer les premières phases du D-Day pour de simples opérations de diversion destinées à brouiller les pistes. Car, disons-le une fois pour toutes, grâce au succès de ce plan, alors que le débarquement avait clairement commencé en Normandie, les Allemands ont continué de croire que ce n'était encore qu'une agitation de surface et que l'essentiel des opérations devait intervenir plus tard et ailleurs. Pour accréditer ce bobard monumental et vital pour la réussite du projet, un homme est allé jusqu'à monter de toutes pièces un réseau complet d'informateurs destinés aux Allemands, mais à la solde des alliés. Un réseau qui a compté jusqu'à 27 sous-agents, tous bidons, si vous me passez le terme. Cet homme s'appelait Juan Pujol Garcia, c'était un Catalan. Depuis 1942, il œuvre pour le renseignement anglais, sous un nom de code à la mode à l'époque, Garbo, et selon ses propres collaborateurs, il passe pour rêveur et naïf. Vous allez voir ce qu'il faut en penser. Si l'on en croit son biographe, les spécialistes du double jeu ont toujours, je cite, « estimé le cas Garbo comme l'exemple le plus poussé de leur art ». De fait, cet agent secret va tromper les Allemands pendant 2 ans et demi, et d'autant plus aisément que le service de renseignement allemand, l'Abwehr, le considère à l'époque comme son meilleur agent en Angleterre. Il est celui qui fournit à l'Axe les renseignements les plus décisifs. Ai-je besoin de vous rappeler qu'en temps de guerre, cette intoxication par le renseignement est une arme couramment utilisée, ce depuis toujours. Une arme non conventionnelle, certes, mais très largement employée, notamment sur un plan tactique, pas seulement, vous allez le voir. On a toujours utilisé les leurres à toutes les époques. Vous savez, on a longtemps, je vous racontais ça l'autre jour à propos des guerres napoléoniennes, hein, cette façon qu'on avait de faire croire à la présence de telle ou telle concentration de troupes dans une plaine où en fait vous n'avez que quelques hommes qui sont là pour faire du bruit, simplement. On racontait ça à propos du pont d'Arcole, je me rappelle l'autre jour. On a toujours utilisé tout ça, les engins factices, des faux avions, des faux chars, en l'occurrence, pendant toute la Deuxième Guerre mondiale. On a construit de faux camps, de faux dépôts de munitions, etc. Et puis surtout, on a diffusé, dans des proportions considérables, de fausses informations. Juan Pujol Garcia a toujours, pour ce qu'il concerne, a toujours rêvé d'être agent secret. C'est chez lui une idée fixe, peut-être même un rêve de petit garçon. Or, pendant cette Seconde Guerre mondiale, lui est catalan. Et son pays, l'Espagne de Franco, est neutre, vous le savez. Qu'à cela ne tienne, à 28 ans, il décide de proposer ses services aux Britanniques. On est là au début de l'année 41, donc il va vite, si je puis dire. Un léger détail, Garcia est un novice total en matière d'espionnage. Et mieux que ça, à l'époque, il ne parle même pas un mot d'anglais. Dans un premier temps, ce n'est pas lui qui entre en contact avec les agents britanniques à Madrid. Il envoie sa femme en éclaireuse. Il la charge de plaider sa cause. Elle s'appelle Araceli Pujol. Elle est décrite par Christian Detremaux dans Opération Garbo comme une femme de tête. Je cite, une femme de caractère parfois hystérique, d'une extrême jalousie et qui visiblement partageait les mêmes envies que son mari. Il fallait à tout prix que ce dernier devienne espion. Dès janvier 41, elle se rend au consulat de Grande-Bretagne à Madrid, donc. Elle rencontre un fonctionnaire accrédité. Elle lui raconte qu'elle connaît un homme volontaire pour se rendre en Allemagne ou en Italie, chargé d'une éventuelle mission d'espionnage pour le compte des Britanniques. Bon, tout ça reste vague, évidemment. Et le fonctionnaire ne se laisse pas du tout convaincre. Il va même jusqu'à décourager cette offre de service. L'Angleterre n'est pas intéressée. Les alliés n'ont que faire des apprentis espions, n'est-ce pas? Or, celui-ci en particulier n'apporterait rien en termes de contacts et d'expérience. Et de plus, les Anglais ont toutes les raisons de se méfier des Espagnols. Ils savent bien que Franco cherche un moyen de remercier le régime nazi de son soutien lors de la récente guerre civile. Donc, ils sont doublement méfiants. Garcia, toujours via sa femme, va faire quelques tentatives supplémentaires, mais il est systématiquement éconduit. Et c'est alors qu'il décide de proposer ses services aux Allemands. Attention, il n'a pas envie d'aller rejoindre les forces de l'Axe. Simplement, il a compris que pour intéresser les Anglais, il allait falloir leur proposer du concret. Garcia, il faut le dire, est un personnage d'une intelligence assez extraordinaire. Naturellement, il ne va pas se présenter de but en blanc à l'ambassade d'Allemagne à Madrid. Il commence par étudier bien en détail toute la doctrine des nazis. Son premier contact a lieu par téléphone. Il propose ingénument de petits services. En vain, là encore, faut-il le préciser. Ça n'est pas grave. 10 jours plus tard, il retente sa chance. Or, cette fois, il réussit à entrer en relation avec un agent subalterne de l'Abwehr, un certain Lang. Garcia fait preuve avec Lang d'un talent pour la fabulation tout à fait marquant. Il raconte à Lang qu'il est en contact avec un agent de la police secrète espagnole employé dans des investigations concernant la contrebande de devises, qu'il lui a proposé d'aller enquêter à Londres sur un Britannique affairé à négocier le change de quelques 5 millions de pesetas en livres sterling. Le voyage, précise-t-il, serait payé par la Seguridad. Vous voyez qu'en fait, cette histoire est assez crédible comme ça, a priori. Or, elle est le fruit pur et simple de l'imagination de Garcia. Il n'a évidemment aucun ami agent de la police secrète espagnole. Il ne doit pas du tout être envoyé en Angleterre via les services diplomatiques espagnols. Tout ça n'est qu'un gros mensonge, mais un mensonge assez crédible pour convaincre le fameux Lang qui finalement le recrute donc pour le compte de l'Abwehr. En juin 41, voilà donc notre Garcia qui part s'installer à Lisbonne, alors que les Allemands, eux, le croient en Angleterre. Les agents de l'Axe en Angleterre sont très précieux. Vous imaginez bien, ils sont peu nombreux, ils sont traqués par les Alliés, forcément. Alors, il a des correspondants de l'Abwehr qui portent les noms de code de Felipe et Federico Garcia. Eux sont tout heureux de le savoir à Londres. Mais en vérité, il n'est pas à Londres, il est à Lisbonne. Comment est-ce qu'il s'y est pris? Il a monté tout un stratagème, un de plus. Il a appelé un ami à lui qui lui réside à Londres, Fernandez. Il lui a expliqué qu'il avait une maîtresse et qu'il ne voulait pas alerter sa femme. Alors il lui demande s'il pourrait utiliser son nom en poste restante pour recevoir le courrier de cette femme située, elle, à Madrid. Encore un mensonge, l'ami accepte. La première lettre, en fait, adressée aux Allemands par le 15 juillet 1941 de Lisbonne. Elle va donc transiter par l'Angleterre, elle revient à Madrid, c'est gagné. Précisons que pour les Allemands, Garcia devient Alaric, Alaric du nom de l'ancien chef Visigoth, vous savez, l'homme qui avait mis Rome à sac. Depuis Lisbonne, Alaric doit donc raconter son quotidien en Angleterre. Or, je vous l'ai dit, il ne connaît rien de ce pays, il n'a même jamais traversé la Manche. Oh, ça ne le dérange pas, outre mesure, vous avez bien compris que chez lui, inventer est devenu une seconde nature.
Thank you.
Yared Gabriel sur Europe 1, un extrait de la bande originale de la série télé de 1994, Fortitude. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions, par mail sur Europe 1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'opération Fortitude.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et vous nous parlez, Franck Ferrand, d'un agent double du nom d'Alaric.
Oui, alors Alaric, c'est le nom que lui donnent les Allemands. Il s'appelle Garcia au départ. Il a très bien compris que ce qu'il fallait, c'est qu'il donne aux Allemands les informations qu'ils avaient envie de lire. Moyennant quoi, ils sont très satisfaits du travail d'Alaric et ils vont lui accorder un crédit de plus en plus important. Naturellement, le petit manège finit par revenir aux oreilles des services secrets britanniques. C'était d'ailleurs l'objectif de l'opération. À Londres, le MI6 est intrigué par une série de messages transmis de Madrid à Berlin par un certain Alaric. Une enquête est ouverte en octobre 41 et Garcia finit par être clairement repéré en février 42. Le MI6 découvre qu'il est en contact avec un attaché naval américain à Lisbonne auquel il a expliqué comment il grugeait l'abwehr, jusque-là convaincu qu'il se trouvait en Angleterre. Les alliés vont interroger Garcia longuement. C'est ce qu'il espérait encore une fois depuis le début de l'opération. Or, ils comprennent qu'ils ont affaire au fameux Alaric, qui dirige le réseau Arabal. Pour Garcia, c'est parti gagné. Le 20 mars 1942, les services de renseignement britanniques acceptent de l'exfiltrer vers l'Angleterre. Cette fois, il n'y a plus besoin de jouer la comédie depuis le Portugal. Il va pouvoir parler savamment de la pluie glaçante de Londres, puisque là, il va la vivre réellement à partir d'avril 1942. Il réside là-bas avec sa femme et il prend un nouveau nom de code, donc Garbo, du nom de la star Greta Garbo, of course. À partir du printemps 42, Garcia Garbo devient donc un maître du double jeu. Pour les Anglais, il sera le double cross agent Garbo et pour les Allemands, il reste évidemment le Alaric. On lui procure un officier traitant, Thomas Harris, qui dans le civil s'occupe de négocier des objets d'art. Tous deux vont monter un réseau d'agents secrets travaillant ou en tout cas censés travailler pour les Allemands. Ils n'ont pas trop de mal, évidemment, puisque les Anglais sont là pour les laisser faire. Un réseau complètement contrôlé, vous l'avez bien compris, par les alliés et dont le but va être désormais d'intoxiquer Berlin à haute dose. En 1944, 27 sous-agents fictifs travailleront, je vous l'ai dit, pour Garbo ou pour Alaric, comme vous voudrez. Bref, pour Garcia. Celui-ci œuvre d'abord dans le cadre du plan Cockade, qui est une opération de diversion des alliés mise en place en 1943 pour empêcher les Allemands de se déplacer vers le front russe, opération qui d'ailleurs a été un échec. Et ensuite, il sera employé naturellement dans le cadre du plan Fortitude. Pour que les Allemands ne se préparent pas au débarquement, les alliés ont en effet décidé d'utiliser le plus largement possible cette intoxication mentale. Voici ce que nous dit Olivier Vieviorca dans l'histoire du débarquement en Normandie. Les alliés misaient, nous dit-il, pour empêcher les Allemands de masser leurs troupes en Normandie sur un ultime facteur, la désinformation. Compte tenu de la disproportion des forces opposant assaillants et défenseurs, le Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force tablait sur la surprise stratégique. Les Allemands devaient être déconcertés tant par le lieu que par le jour et l'heure du débarquement. Dans cette optique, il fallait dissimuler les intentions réelles des attaquants, mais également égarer l'ennemi en le trompant sur le schéma stratégique. Pour ce faire, les alliés disposaient de trois atouts. Grâce au système Ultra, ils décryptaient une partie des communications allemandes, l'insularité du Royaume-Uni protégeait des infiltrations ennemies et la Grande-Bretagne disposait en matière d'espionnage d'un savoir-faire consommé. Vous savez que les espions britanniques sont connus, j'allais dire, depuis la nuit des temps. Les Allemands se doutent qu'un débarquement sur les côtes françaises est en préparation, c'est une évidence. L'objectif dès lors est de tromper l'ennemi sur le lieu et sur la date, bien entendu. Le plan Fortitude est mis au point en novembre 1943. La Normandie, à cette date, a déjà été choisie pour le débarquement officiel. Et dès lors, il faut à tout prix convaincre Hitler et ses hommes que tout aura lieu dans le Pas-de-Calais. Ce Pas-de-Calais doit servir d'abcès de fixation pour les forces allemandes. C'est ce qui va se passer. Du reste, après le débarquement, pendant 14 jours, les Allemands continueront de refuser à quitter le Pas-de-Calais. Le plan est validé le 1er décembre 1943 à la conférence de de Téhéran. Vous savez, cette conférence entre Churchill, Roosevelt, Staline et bien entendu tous leurs conseillers. Il faut vous dire que le plan Fortitude en fait était coupé en deux. D'une part, on devait faire croire aux Allemands qu'il y allait y avoir un débarquement en Scandinavie, en Norvège, en Suède, etc. Et puis de l'autre côté, un débarquement plus au sud dans le Pas-de-Calais. On parlait même, bien entendu, on essayait de les intoxiquer le plus possible avec la Méditerranée. Vous savez que c'était d'autant plus facile que les Américains, les Anglo-Américains, y avaient déjà mis plus qu'un pied. C'est ici que Garbeau, notamment, va entrer en scène. Le 5 janvier 1944, les Allemands demandent à Alaric, parce que pour eux c'est comme ça qu'il s'appelle, de découvrir exactement la date, le lieu des opérations. 5 janvier 1944, ça commence à devenir de plus en plus chaud, si j'ose dire. Garbeau leur fournit ce qu'ils attendaient, avec ses fameux 27 informateurs. Ses agents sont dispersés à partir de fin février dans les régions côtières, aux endroits stratégiques, près de Douvres, près de Brighton, Harwich, à Exeter, etc. Et ils rapportent des témoignages visuels. Alaric retouche ses rapports avant de les envoyer aux Allemands. Bien entendu, vous avez compris que tout ce qu'il va envoyer, ce sont de faux, enfin pas tout, mais il y a beaucoup de fausses données. Tout le réseau n'en fonctionne pas moins comme s'il était bien réel. Garbeau annonce au milieu du mois de février 44 qu'il effectue une longue tournée sur la côte sud de l'Angleterre. Il raconte avoir aperçu des soldats américains appartenant à la première division américaine, The Big Red One, un renseignement véridique, mais que Garbeau a été autorisé à communiquer. De temps en temps comme ça, il instille au milieu des rapports qu'il fournit aux Allemands des informations tout à fait vraies, ce qui ne fait qu'accréditer, bien entendu, la masse des données, elle, tout à fait fausse.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'opération Fortitude.
Alors, vous savez, les Anglais vont jouer dans cette affaire un jeu dangereux. Ils ont très bien compris que s'ils veulent avoir une chance d'accréditer l'idée d'un deuxième débarquement, qui va donc monopoliser un certain nombre des forces allemandes dans l'attente de ce deuxième débarquement, il allait falloir rendre public, en tout cas de révéler aux Allemands l'existence d'un premier. C'est très dangereux parce que ça veut dire que les Allemands seront donc bel et bien informés du débarquement de Normandie, sauf qu'ils pensent que qu'il ne s'agit que d'un leurre. Ça fonctionne. Le service de renseignement intérieur anglais espionne les Allemands. Il découvre que les observations rapportées par Garbeau sont retransmises donc immédiatement par Madrid à Berlin, qu'elles sont retransmises à l'identique, que toutes ces informations sont digérées par les Allemands qui maintenant ont intégrer le fait qu'il y aura deux débarquements successifs. Hitler évoque notamment, on est le 27 mai, hein, donc quelques jours du D-Day, il évoque avec l'ambassadeur du Japon des opérations de diversion qui doivent avoir lieu en Norvège, au Danemark et dans le sud de la côte française atlantique, dit-il. Et à la fin de la guerre, on s'est aperçu que toutes les observations des agents du réseau Garbeau avaient été incorporées dans les notes quotidiennes produites par la direction chargée du renseignement militaire au sein de l'OKC. Avait le commandement suprême des forces armées allemandes. Autant dire, et c'est tout le paradoxe, que les Anglais donc ont prévenu les Allemands du débarquement, mais qu'ils les ont trompés sur la nature exacte de ce débarquement. Le service de renseignement anglais a calculé qu'il faut 3 heures pour qu'un message soit transmis à l'Abwehr depuis Madrid jusqu'à Berlin. Donc l'idée est de transmettre un message à 3 heures du matin pour prévenir que l'heure d'arrivée sur les plages du débarquement sera 6h30, mais sans information plus précise afin de ne pas non plus mettre trop en danger les unités du débarquement. Le 6 juin, le colonel Rönne, qui est le chef de la Fremde Heere West, assure que si le débarquement anglo-saxon sur la côte de Normandie représente une opération à grande échelle, les forces utilisées ne représentent qu'une partie relativement faible des effectifs alliés disponibles. Pas une seule unité du premier groupe d'armée des États-Unis, qui comprend environ 25 grandes formations au nord et au sud de la Tamise, n'a en effet été engagée, dit ce haut responsable allemand. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que cette ligne, elle va se poursuivre au-delà même du débarquement de Normandie. On continue à faire croire qu'il s'agit bien d'une diversion. Le 9 juin, Garbeau rassure les Allemands avec un message radio de 2 heures. Il raconte que selon lui, la Normandie n'est qu'une diversion à grande échelle dans le but d'attirer les réserves allemandes et en vue d'assurer la réussite de la seconde frappe qui, elle, sera décisive. Le but, c'est que les Allemands envoient le moins de renforts possible, vous l'avez compris. La diversion des Alliés a réussi. Nous allons voir dans un instant avec Olivier Viviorca jusqu'à quel point elle a pu réussir. Ce qu'il faut vous dire, c'est que jusqu'en février 45, Garbeau et Harris vont réussir à laisser planer l'idée d'un débarquement d'envergure dans le Pas-de-Calais. Je dis bien jusqu'en février 45. Ils ne seront jamais d'ailleurs décelés comme agents doubles par les services allemands. Et mieux que ça, ils seront même remerciés plus tard par les Allemands. Ce qu'il faut vous dire, c'est que les Anglais n'ont pas révélé leur stratégie militaire et secrète, cette opération Fortitude. On ne la connaîtra que très tard, grâce à un certain Masterman qui fait paraître en 1972 un ouvrage intitulé « The Double Cross System in the War » et qui va là révéler enfin l'ensemble de l'opération et notamment le rôle joué par Garbeau. Mais 1972, vous voyez que c'est bien longtemps après l'issue de la guerre. Bonjour Olivier Wieworka. J'ai été obligé d'aller un peu vite sur la fin de cette opération. Nous allons avec vous revenir dans tout le détail de cette extraordinaire opération d'intoxication des services et des responsables allemands.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi de l'opération Fortitude avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Olivier Wieworka, professeur à l'École Normale Supérieure de Cachan, auteur d'Histoire du débarquement en Normandie, des origines à la libération de Paris 1941-1944 aux éditions Seuil.
Ah oui, il est magnifique hein, cet ouvrage publié en collaboration avec le ministère de la Défense et qui nous fait revivre tout le débarquement, j'ai envie de dire, depuis l'avant jusqu'à l'après, car on a parfois tendance à négliger l'impressionnant dispositif de ce débarquement, bien après les combats bien connus des 6 et 7 juin 1944, et même au-delà de la bataille de Normandie d'ailleurs. Alors, Olivier Wieworka, j'ai parlé de ce Garbeau, personnage, je l'ai pris parce qu'il est quand même assez, le cas est assez inouï. Est-il vrai qu'il n'avait vraiment aucune formation d'agent secret, que c'est une vocation personnelle ?
Oui, c'est une vocation personnelle, mais ce qu'il faut peut-être souligner, c'est que le cas n'est pas aussi extraordinaire. Quand vous pensez à la manière dont se sont constitués les services secrets de la France libre sous la houlette du colonel Passy, que vous pensez à un homme comme le colonel Rémy, que vous connaissez bien, c'était également un novice. Donc le fait, si vous voulez, que la guerre révèle au fond à des individus des vocations, des talents cachés, eh bien ce n'est pas surprenant.
Alors là, ce qui est tout à fait inouï avec ce Garcia, Pujol Garcia, c'est qu'il va commencer par se faire passer pour un agent infiltré en Angleterre alors qu'il est tranquillement à Lisbonne, enfin pas tranquillement, mais il n'a pas le choix, il est coincé à Lisbonne, il ne parle même pas l'anglais, il n'a jamais mis les pieds en Angleterre, il est censé décrire ses voyages en train, les gens qu'il rencontre, etc. Alors que tout ça est livresque, j'espère qu'il a lu des Agatha Christie probablement à l'époque, bon. Et puis, surtout, et là ça devient complètement inouï, il va, avec l'appui puissant des Anglais, monter, alors cette fois sur place, un réseau considérable dont les Allemands ne se douteront jamais qu'il est un réseau de contre-espions, hein, d'agents doubles. Il sait même pire que ça, puisque notre Pujol, là, notre Alaric, comme l'appellent les Allemands, il est décoré de la Croix de Fer au printemps 1945, c'est-à-dire bien longtemps après le débarquement, les Allemands continueront à lui faire confiance.
Oui, vous avez entièrement raison, mais je pense qu'il faut préciser deux choses. La première chose, c'est l'extrême minutie des Britanniques. Parce que lorsque vous avez ce type d'opération, la moindre erreur est fatale. Et lorsque vous regardez les archives à la fois des services secrets, du Foreign Office, du ministère des Affaires étrangères, vous apercevez que tout doit concorder et qu'il faut faire extrêmement attention. Vous avez fait allusion à cette prétendue attaque au nord du continent européen. Eh bien, les Britanniques vont demander aux Soviétiques leur aide. Eh bien, les Soviétiques font très attention dans les opérations de désinformation de ne pas se brouiller, par exemple, avec la Bulgarie. Comme les Britanniques font attention de ne pas se brouiller avec la Turquie. Donc, si vous voulez, tout doit marcher d'un seul et même pas. Quand je dis d'un seul et même pas, c'est il y a d'une part la désinformation, mais elle ne doit pas mettre en danger les services secrets du SOE, qui ne doivent pas mettre en danger la politique extérieure du Foreign Office, qui ne doit pas mettre en danger la propagande.
C'est donc d'une complexité.
C'est très complexe.
Quoi révéler, à quel échelon, comment, quand transmettre, tout ça. Et il y a une part d'improvisation, évidemment, mais ce qui était extraordinaire dans une opération de l'ampleur de Fortitude, car j'ai évoqué, moi, le cas très central, essentiel, certes, mais très personnel de Garbeau, il y a un grand nombre d'agents qui sont englobés dans dans ce plan. Et, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que c'est un peu facile de prendre les Allemands pour des papa Schulz, hein, évidemment que le haut état-major allemand n'est pas si naïf que ça. Et d'ailleurs, Hitler lui-même, écrivez-vous, obligea à remanier cette trame en désignant dans la directive numéro 51 du 3 novembre 1943 la France comme le lieu où l'ennemi doit attaquer et où il attaquera. En renforçant les défenses sur le littoral, il obligeait les experts à changer leurs fusées d'épaule en démontrant d'emblée qu'ils n'étaient pas dupes des feintes désignant la Méditerranée ou même la Scandinavie. Hitler sait très bien que le débarquement aura lieu quelque part en France.
Oui, Hitler le sait, ce qui veut dire que tout ce qui a été mis en œuvre à partir de novembre 1943, ce que vous rappeliez, et qui prévoyait des attaques en Norvège, qui prévoyait des attaques en Méditerranée, eh bien va être recentré autour d'une part de l'hypothèse scandinave et d'autre part de l'hypothèse française.
Pas-de-Calais, voilà.
Et du Pas-de-Calais. Le second élément que je voulais mentionner, c'est que si ça marche, c'est bien entendu parce que la fable est bien menée. Mais c'est aussi parce qu'elle correspond à ce que les Allemands pensent. C'est-à-dire qu'au fond, je dirais que plus que de désinformer les Allemands, Garbeau les conforte dans l'idée qu'ils ont. Et l'idée qu'ils ont, c'est qu'un débarquement ne pourra se produire que dans le Nord-Pas-de-Calais.
Et voilà. Donc, vous l'avez dit à l'instant, mais il faut peut-être bien le souligner, pendant très longtemps, ce plan Fortitude est divisé en deux. Vous avez le Fortitude North et Fortitude South. C'est-à-dire, le Nord, c'est tout ce qui concerne la Scandinavie, et ce qu'on appelle le Sud dans le plan, c'est notre Nord à nous, c'est-à-dire c'est le Pas-de-Calais, en fait. Hein. Pendant très longtemps, on essaie de balader, si je puis dire, les Allemands entre ces deux objectifs qui sont tout de même crédibles, parce qu'il faut que tout ça reste crédible, c'est toute la grande difficulté.
Alors, que l'hypothèque ou l'hypothèse scandinave soit crédible pour les Allemands, très sincèrement, je ne le crois pas, dans la mesure où les Allemands regardent la carte, quel intérêt les Alliés auraient-ils eu à débarquer en Norvège ?
En Suède, oui.
La Suède, donc, qui est neutre, enfin, ça aurait provoqué beaucoup de...
Et puis qui est détaché du continent,
voilà.
Surtout. Hein.
Donc, si vous voulez, l'intérêt était mince. En revanche, le Pas-de-Calais, les Allemands y croient, tout simplement parce que le Pas-de-Calais est le lieu de débarquement le plus probable. Pourquoi est-il le plus probable ? Parce que le Nord-Pas-de-Calais est la côte française la plus proche de la côte anglaise. Qui dit proximité dit, 1, que les troupes n'auront pas à naviguer au travers de la Manche pendant trop longtemps, et ça c'est un élément important, mais, second élément qui ne l'est pas moins, que l'aviation n'aura pas à parcourir trop de distance. Je rappelle qu'on a l'impression qu'un chasseur, par exemple, vole très longtemps. C'est pas vrai. Une mission de chasse, c'est à peu près 45-50 minutes. Et pour traverser le Channel, il faut de 8 à 10 minutes. Donc plus vous raccourcissez ce temps de traversée, mieux vous vous portez. Donc le Pas-de-Calais est la cible la plus probable. Ajoutons également que vous avez des ports en eau profonde qui sont nécessaires aux Alliés dans le Pas-de-Calais que vous n'en avez pas en Normandie, hormis le Havre.
Est-ce qu'on peut imaginer que les Anglais, quand on dit les Anglais, sont les Alliés d'une façon générale, mais c'est vraiment les services secrets anglais qui sont à la manœuvre en l'occurrence. Ils ont une antériorité et un savoir-faire absolument unique au monde, avec maintenant les services secrets israéliens qu'il faudrait ajouter, mais à l'époque c'était vraiment l'apanage des Anglais. Est-ce que les services britanniques se disent qu'en laissant la double hypothèse Scandinavie-Pas-de-Calais, ça permet aux Allemands de croire que la Scandinavie serait en soi la diversion, parce que les Allemands ne sont pas idiots, ils se doutent bien que les Alliés vont tenter de les divertir, de les tromper. Et donc, en fait, en maintenant les deux options, on peut laisser croire à l'état-major allemand qu'en vérité, l'hypothèse scandinave n'est qu'un leurre, ce qui permet ensuite d'accréditer le véritable leurre, qui lui, bien sûr, n'est jamais révélé, c'est-à-dire la Normandie.
Peut-être, mais je crois aussi que les Alliés font un peu flèche de tout bois, c'est-à-dire qu'ils lancent, et je donnerai un exemple dans quelques instants, ils lancent des hypothèses, ils lancent des scénarios, et ils voient un petit peu la manière dont les Allemands se les approprient ou ne se les approprient pas. C'est le même phénomène avec une autre spécialité qui est les rumeurs. Les Alliés vont lancer, vont fabriquer des rumeurs, et de temps en temps, alors vous avez des rumeurs qui sont totalement délirantes, et puis de temps en temps une rumeur marche, et à partir de ce moment-là, les rumeurs enclenche d'autres rumeurs, tout simplement parce que le scénario a fonctionné.
Ce qu'il faut dire, c'est que tous les scénarios ne fonctionnent pas. Là, nous racontons ce qui a marché, mais il y a des plans qui n'ont pas marché. Notamment, je parlais de ce plan Cockade, hein, qui n'a pas du tout marché pour dissuader les Allemands de bouger sur le front Est.
Oui, bien sûr. Vous avez des scénarios qui s'effondrent, tout simplement parce que les Allemands savent qu'ils ont affaire à un espionnage, à un contre-espionnage de grand talent et qu'ils ne marchent pas dans la combine, bien évidemment.
Ils avaient eux aussi, bien sûr, leurs propres agents doubles et ils essayaient d'intoxiquer les services occidentaux.
Alors, les Allemands, si vous voulez, ont eu des agents doubles. Je crois qu'il faut faire une distinction. Ils ont essayé d'envoyer des agents en Angleterre et surtout en Irlande, qui était neutre. Et là, ça a très très mal marché. Très très mal marché. En revanche, ce qu'ils ont réussi, c'est soit sous la contrainte, soit moyennant finance, réussir à retourner des agents. Et l'un des exemples le plus célèbre est ce qu'on a appelé l'England Spiel, le jeu britannique. C'est-à-dire que des agents du service des opérations, de Special Operations Executive, c'est-à-dire le service action des services secrets britanniques, dès qu'il est arrivé en Hollande, il a été retourné et pendant plus de 2 ans, il a intoxiqué les Allemands en leur fournissant des fausses informations.
Nous venons dans un instant à tous les moyens, tous les leurres dont on dispose, les matériels fantômes, les faux camps, les bombardements de diversion, etc.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Mitch Miller sur Europe 1, un extrait de la bande originale du film Le jour le plus long, sorti en 1962 avec John Wayne, Henri Fondage, Richard Burton ou encore
avec tout Hollywood, là,
Robert Mitchum, c'est vrai. Vous nous parlez cet après-midi dans Cœur de l'histoire de l'opération Fortitude, Franck Ferrand, avec votre invité Olivier Viervorka, professeur à l'École normale supérieure de Cachan, auteur d'Histoire du débarquement en Normandie, des origines à la libération de Paris 1941-1944 aux éditions Seuil.
Alors, on entendait ces quelques accents de la musique du jour le plus long. Évidemment, tout le monde connaît, je pense, assez bien le débarquement, ses opérations, etc. Ce que l'on a plus de mal à comprendre, c'est qu'au moment même où le débarquement a lieu, les Allemands, eux, sont convaincus qu'ils assistent à une diversion à grande échelle. Ça, c'est assez extraordinaire.
Alors, non seulement, donc, les Allemands sont effectivement persuadés qu'ils assistent à une diversion, ils ne démordent pas de l'idée que le choc principal se produira au Pas-de-Calais.
Ils ont le débarquement sous les yeux, mais ils se disent c'est quand même extraordinaire.
Et cela veut dire tout simplement aussi qu'ils ont intériorisé l'idée que les Alliés avaient des ressources inépuisables. Et ça, c'est tout à fait effectivement incroyable. Et ce qu'il y a d'encore plus incroyable, c'est que quand nous, on connaît le débarquement, quand nous, on connaît la suite des opérations, on mesure la folie logistique que ce débarquement a représenté, eh bien les Allemands ne sont pas inquiets. Vous n'avez aucun signe de panique. Les chaînes de commandement se mettent en place et ils sont persuadés qu'ils vont pouvoir rejeter à la mer les assaillants.
Oui, et ils vont l'être pendant suffisamment longtemps pour permettre aux forces alliées de s'installer, justement, de commencer à mettre un pied sur le continent.
Alors, d'une part, les Allemands ne vont comprendre que le débarquement en Normandie est l'opération principale qu'à la fin du mois de juillet, c'est-à-dire qu'ils vont pendant très longtemps laisser leur 15e armée, qui est quand même forte de 20 divisions, au nord, sans qu'elle bouge. Et d'autre part, eh bien, les Alliés vont réussir assez vite, le soir même, à prendre les 5 plages du débarquement et donc à acheminer du matériel et des hommes.
Alors, nous avons bien compris que pour qu'une intoxication fonctionne, ça peut servir à nos auditeurs dans le cadre de relations de bureau, par exemple. Il faut d'une part dire à votre interlocuteur ce qu'il a envie d'entendre. Là, en l'occurrence, on a bercé les Allemands de ce qu'ils avaient envie d'entendre. C'est fondamental. Il faut avoir des sources récurrentes et dispersées, parce qu'il faut qu'on ait l'impression qu'il y ait une convergence d'informations. Il faut mêler à un grand nombre d'informations fausses de vraies informations, histoire d'accréditer. Et puis, et j'ai envie de dire surtout, il faut appuyer ce qui est dit intellectuellement par des choses qui se voient. Alors là, c'est le travail notamment des bombardiers. Il y a un travail là de...
Alors, vous avez d'abord tout un ensemble d'unités fantômes intervient. C'est-à-dire que l'on va créer des unités de tanks en caoutchouc, que l'on va faire flotter des faux bâtiments, que l'on va alimenter un faux trafic radio. Donc tous ces éléments, bien évidemment, jouent.
Tout ça, c'est du leurre, en fait.
Et tout cela, c'est du leurre. En revanche, ce qui est le vrai matériel, les vraies bombes, les vraies munitions, sont camouflés. et d'autre part pour préserver la Normandie de l'intérêt que peuvent lui porter les Allemands, eh bien les Alliés vont bombarder principalement hors de Normandie. Et donc vous allez avoir un ratio pour les bombardements qui sera de 2 pour 1, c'est-à-dire que pour une bombe tombée en Normandie, vous en aurez 2 qui tomberont au Nord-Pas-de-Calais. C'est ce que je disais tout à l'heure, tout est pensé et conçu pour que tout aille du même pas. On ne peut pas avoir une divergence entre la stratégie de l'aviation d'une part et ce que raconte Garbeau d'autre part.
Ce que l'on voit lorsqu'on vous lit, lorsqu'on lit ceux qui s'intéressent à ce sujet, c'est que la grande crainte des hommes du renseignement, ce ne sont pas paradoxalement les petits agents, ce ne sont pas ceux qui travaillent à créer les fameux leurres et qui vont installer des tanks et des péniches de débarquement en contreplaqué le long des routes anglaises pour faire croire qu'il y a un matériel bien plus important qu'il n'est en réalité. Ce qui inquiète le plus les hommes du renseignement, ce sont les hommes politiques. C'est quand Churchill prend la parole, c'est quand le président Roosevelt se déplace, on se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont dire ?» C'est assez étrange, mais c'est le principal danger, finalement.
Oui, c'est un grand danger. Alors, vous avez bien entendu la peur des hommes politiques. Vous avez quand même aussi, à l'intérieur de l'état-major, la peur de fuite. Et ces fuites ont existé. Vous avez un général ivre qui a commencé à un peu trop bavarder, donc qui a été dégradé et renvoyé aux États-Unis sur le champ. C'est d'autres erreurs qui peuvent se produire. Par exemple, vous avez une sténotypiste qui doit répéter la dépêche d'agence qu'elle doit envoyer pour annoncer le débarquement. Donc elle s'entraîne, sauf que elle la passe en clair. Bon, ouais. Donc vous voyez, vous avez ce genre de frayeur, et je pense que les chefs du contre-espionnage ont dû passer des nuits singulièrement brèves et agitées pour préserver le secret du jour J.
Il y a ce fameux discours de Churchill à la Chambre des communes où il commence à livrer la vérité. On est là le lendemain du 6 juin 1944. Dès le 7 juin, il dit « Nous avons lancé le débarquement ». Et alors, il se rattrape dans son discours. Il dit « C'est le premier d'une série ». Mais enfin, on a envie de dire « Trop tard ». Les Allemands n'ont vu que du feu dans tout ça. C'est curieux. Ils analysaient insuffisamment les discours anglais ?
Ils devaient les analyser, mais je crois qu'on a toujours tendance, lorsqu'on est historien ou citoyen, à se dire « Regardez, l'espion X a prévenu Staline que l'Union soviétique sera attaquée, etc. »
Au milieu du reste.
Mais vous avez une avalanche d'informations. Donc comment distinguer le vrai du faux ? Comment trier ? Comment hiérarchiser ? C'est bien évidemment quelque chose de très compliqué.
Je me rappelle, quand je suis entré à Sciences Po, il y a très longtemps maintenant, on nous avait distribué la fameuse note du colonel Giraud, attaché militaire allemand à l'ambassade française à Berlin, qui, dès 1937, annonçait presque semaine par semaine ce qui allait se passer, comment Hitler allait procéder, etc. Et on nous disait, mais voyez, ce monsieur a prévenu le gouvernement français, on le savait, et pourtant rien n'a été fait. Mais ce qu'on oublie peut-être de dire, c'est que la note en question, elle arrive au milieu de 15 autres notes, et que les avis divergent. Et pourquoi croire celui-ci plutôt que celui-là ? La grande force des services de renseignement, ou plus exactement dans ce qui nous concerne là, de désinformation alliée, c'est qu'ils s'appuient sur un très grand nombre d'agents ultra qualifiés. En face, disons-le clairement, les Allemands font un peu figure d'apprentis. Ils sont pas très doués pour le renseignement, hein, les nazis.
Non, ils sont très doués, comme je l'ai dit, pour infiltrer, mais pas très doués pour l'espionnage. En revanche, il est sûr que les services britanniques ont pu recruter, parfois pour leur plus grand malheur, puisque vous aviez des taupes soviétiques, ils recrutent à Oxford, ils recrutent bien entendu à Cambridge. C'est-à-dire que ce qui est plutôt mal considéré dans la vieille Europe, et y compris en France, où le fait d'être espion n'était pas très valorisé avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, n'est pas considéré comme une activité infamante pour les sujets de Sa Gracieuse Majesté.
Alors je ne voudrais pas qu'on croie que Garbeau a été la seule cheville ouvrière de cet énorme plan Fortitude. Il y a d'autres grands acteurs, hein. Il faut les citer. Il y a Brutus notamment, qui a joué un rôle important.
Oui, donc il y a plein d'autres intervenants qui participent à la construction de cette idée avec, je le répète, la volonté d'éviter que les Allemands ne transfèrent leur division du Nord-Pas-de-Calais vers la Normandie.
Alors cette Normandie, là où ça devient fascinant, c'est qu'elle est bientôt révélée aux Allemands. Je racontais ça tout à l'heure, dans les tout derniers jours, on va finir par lâcher le morceau, par leur dire la vérité, pour que précisément l'hypothèse de la diversion se trouve d'autant renforcée. C'est un énorme paradoxe et c'est un risque colossal. C'est-à-dire qu'on est en train d'engager la vie de dizaines de milliers d'hommes sur une opération extrêmement délicate, pour pas dire même a priori comme ça impossible, et au lieu de cacher les choses le plus possible, on va les révéler aux Allemands pour accréditer la valeur des fausses informations qu'on leur a données.
Tout à fait. Il n'en reste pas moins vrai que les Alliés ont quand même fait très attention d'en dire le moins possible, que les Alliés continuent à maintenir un très grand secret sur les lieux exacts du débarquement. Tout cela, effectivement, vous l'avez dit, à la fois pour ménager la vie des soldats, mais également pour préserver la surprise stratégique.
Alors pour finir, j'aimerais qu'on fasse un tout petit peu d'historiographie, c'est-à-dire d'histoire de l'histoire, en quelque sorte. Dans les années 50, je regardais même encore ce matin des revues historiques des années 60, cette histoire de fortitude n'existe pas. Tout simplement pas du tout. Et pour cause, on ne la connaît pas ou quasiment pas. Il y a eu quelques éléments, mais qui sont plus romanesques qu'autre chose. Et puis, au début des années 70, alors là, c'est l'explosion, ça devient le grand sujet. Je me rappelle que dans les années 80, on ne parlait en gros que de ça. Ça a été un énorme succès chez les historiens, chez les contemporanistes, comme on dit. On parlait que de ces opérations d'intoxication, etc. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on fait plutôt machine arrière et que les historiens accordent de moins en moins d'importance au rôle joué par les agences secret en général et par ce plan en particulier dans le succès des opérations. Olivier Vieillorca.
Alors, ce qu'il faut dire, vous avez entièrement raison, c'est que on parle peu de la guerre secrète. Alors, on en parle peu, la guerre secrète, pour deux raisons. La première raison, c'est que les services secrets n'aiment pas ouvrir leurs archives, on les comprend, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas trahir et des secrets de fabrication et des secrets de famille. Le second élément...
Ça peut servir pour l'avenir, on ne sait jamais.
Ça peut servir pour l'avenir et on doit également à quelqu'un qui s'est engagé et qui a réclamé le secret, de ne pas trahir son engagement auprès de sa famille. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est que les Alliés, et notamment les Britanniques, ont eu peur de ternir leur gloire en révélant que, par exemple, ils étaient informés des mouvements de troupes à El Alamein. C'est beaucoup plus glorieux d'affirmer que Montgomery a gagné sur Rommel par la fortune des armes que parce qu'il était informé en avance de l'ordre de bataille de son adversaire. Par la suite, eh bien, du coup, avec le développement de l'historiographie, les historiens sont tombés sur un nouveau continent, donc s'aperçoivent que la guerre secrète existe, donc tout le monde s'excite. Et je crois que le reflux que vous avez à juste titre noté est dû au fait que, bien, on s'aperçoit que, pour aller vite, les choses sont plus compliquées. Bien entendu, fortitude est importante, mais la maîtrise de l'air par les Britanniques et les Américains l'est tout autant. Donc c'est un ensemble, et dans cet ensemble, il faut placer fortitude à sa juste mesure, à sa juste proportion.
Des origines à la libération de Paris, 1941-1944, c'est l'histoire du débarquement en Normandie d'Olivier Vieillorca aux éditions du Seuil avec le ministère de la Défense. Je signale également le débarquement pour les nuls de Claude Quettel chez First et un livre qui va sortir de Robert Maloubier, précisément sur cette opération Fortitude, les secrets du D-Day. Ça devrait être publié au printemps prochain aux éditions Prisma. Merci beaucoup Olivier Vieillorca.
Cœur de l'histoire. Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Johanna. Elle nous l'a envoyée via le site internet d'Europe 1. Elle souhaite connaître les origines de la Saint-Patrick.
Bon ben c'est tout simple. D'abord, ça nous ramène loin, loin en arrière, hein, puisque le Saint-Patrick en question, ce prêtre irlandais, il est mort un 17 mars, hein, d'où la Saint-Patrick le 17 mars. Le 17 mars 461, on est vraiment dans les premiers temps de l'évangélisation, hein, bien entendu. Il s'appelait Mewin Sukat, de son vrai nom, ce prêtre. Il était né à la fin du 4e siècle, probablement en 390. Il était pas forcément très religieux au départ. Il se trouve qu'à l'âge de 16 ans, il a été enlevé par des pirates, vendu comme esclave à un druide irlandais qui en a fait un berger. Et eh bien, il va dans son pastorat, si j'ose dire, il va rencontrer Dieu. Il étudiera la théologie. On le voit sur le continent aux côtés de Germain l'Auxerrois. C'est un personnage qui va compter compter parmi les grands parmi les pères de l'Église, disons. C'est le pape Célestin Ier qui, en 432, l'envoie évangéliser l'Irlande. Alors, il y a pas mal de... Il y a énormément d'anecdotes à ce propos. Hein, l'histoire du trèfle irlandais. On dit que c'est lui qui a chassé les serpents d'Irlande, etc. En attendant, il ne deviendra le personnage populaire que l'on sait qu'au XVIIe siècle. C'est à ce moment-là que on fait pression sur le Vatican pour que le 17 mars devienne cette fête religieuse de la Saint-Patrick qui va devenir la fête des Irlandais, non seulement en Irlande, mais partout dans le monde, notamment dans les grandes colonies irlandaises de la côte est des États-Unis, à Boston. Inutile de vous dire que en ce moment même, à Boston, bien entendu, on fait la fête.